Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La question du mal dans l'Égypte ancienne. Le mal, il est là depuis les commencements et il est toujours là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas besoin de le démontrer trop longtemps. On sait que notre monde contemporain est rempli de toutes les formes de mal possibles à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau international. Et apparemment, il en a été ainsi depuis très 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 longtemps. Cette question du mal est étudiée par toutes sortes de disciplines dans le domaine des sciences sociales, mais aussi des sciences de la vie. Il se trouve par exemple des gens qui sont dans la génétique, qui cherchent dans la génétique des personnes ou des êtres animaux ou humains s'il n'y aurait pas des gènes particuliers qui conduisent à ces actes qu'on qualifie comme le mal ou comme le mal absolu. Cette question est difficile à aborder. On peut l'aborder d'une manière historique, dans la longue durée, on peut l'aborder d'une manière philosophique, on peut aussi essayer à partir de certaines civilisations et de certaines cultures, essayer de voir comment poser la question et comment essayer d'y répondre. Notre invité d'aujourd'hui est un égyptologue que nous avons entendu dans une première émission expliquer sa propre formation et quel rapport il a avec l'héritage des grands égyptologues africains qui ont contribué à renouveler l'histoire du continent. Donc je pense à Cheikhanta Diop et à Théophile Obenga. Professeur Mpaye Kemboli, bonjour.
Bonjour professeur.
Vous avez fait donc une thèse à Oxford en anglais, thèse qui a été publiée mais malheureusement je dirais toujours en anglais et on aimerait bien qu'il soit publié, qu'elle soit traduite également en français, sous le titre « La question du mal dans l'ancienne Égypte ». C'est la mise en forme d'une thèse qui a été soutenue en 2005 et vous l'avez publiée en 2010. Alors, la question du mal, vous ne la posez pas en termes théologiques directement, quoique vous soyez prêtre, vous la posez en termes, je dirais, à la fois de philosophie et d'expertise en égyptologie. Est-ce bien cela ?
C'est bien cela. C'est-à-dire, à partir de mes études de philosophie, je suis tombé sur une phrase de... Enfin, même une phrase, hein, mais la pensée d'Ericker, où il dit, le mal, on dirait que le problème du mal, c'est une invitation à déraisonner et en même temps une provocation à penser. Il continue sa réflexion en disant « Il faut penser plus et autrement ». Donc je voulais aborder la question du mal à nouveau frais, en Égypte ancienne. Parce que souvent, on est venu à l'Égypte à partir de concepts d'Israël et de la Grèce ancienne. Donc c'est un peu ça, c'est comme moi je voulais, comment les Égyptiens eux-mêmes ont posé la question du mal à partir de leurs textes, de leurs écrits.
Alors vous-même, vous reformulez cela dans la problématique, l'approche de votre thèse, entre autres en demandant, je simplifie un peu, est-ce que le mal existe avant la création ou est-ce qu'il surgit, alors comment nous allons voir, postérieurement à la création, est-ce bien cela ?
C'est bien cela, professeur.
Et alors, vous procédez comment pour faire ça ? À partir des textes, donc les textes égyptiens sont très nombreux, très compliqués, quelles sont les figures à la fois d'individus, les approches philosophiques que vous avez choisies pour aller au fond de votre thèse ?
Alors, je voulais un peu prendre une approche objective, c'est-à-dire prendre les évidences. Nous sommes d'accord au niveau de la grammaire, donc au moins ceux qui ont été formés à l'école d'égyptologie moderne, nous savons plus ou moins comment lire les hiéroglyphes. Après les avoir lus, comment interpréter ces textes en tenant compte de l'histoire du texte, de l'intertextualité, de l'intratextualité et de la contextualité. Alors, lire les évidences, les textes par eux-mêmes. Alors j'ai pris les textes qui commencent au 24e siècle avant Jésus-Christ, les textes des pyramides et les textes de la période gréco-romaine, le 2e siècle. Donc les derniers temples, donc les temples d'Esna et de Tfou, et j'ai ajouté aussi Medamoud. Alors, comment moi je fais ? Je ne voulais pas entrer dans un procès pour la cohérence. Un peu, Dieu est bon, Dieu est puissant, pourquoi il est mal ? Je voulais simplement écouter le texte. Alors j'ai pris un ensemble de textes, le texte des sarcophages, le texte des pyramides et les autres textes que nous connaissons dans l'Égypte ancienne. J'ai là dedans pris les textes des commencements, de les récits des commencements. J'ai pris aussi les hymnes, parce que la question du mal va ensemble avec la question de la bonté ou de la méchanceté de Dieu. Vous voyez, voir comment les Égyptiens abordaient la question de Dieu. Et là, je suis tombé sur un ensemble de textes de louanges et voir comment eux louaient. Ils ont dit que Dieu a bien créé le monde et que le monde était parfait, même s'ils reconnaissaient aussi le mal. Vous voyez, donc il y a ce texte. On a pu aussi quelques individus, par exemple, le texte, comme on les appelle, les autobiographies, les confessions négatives, comme on dit, par exemple, le livre de mort. Voir là-dedans la valence du mal. Oui, c'est un peu cela.
Et là-dedans, avant vous, il y a des gens qui avaient réfléchi aussi et vous expliquez qu'il y a deux écoles, ceux qui disent que le mal a existé après et ceux qui disent que le mal existait avant. Donc vous entrez dans un terrain où il y a un débat extrêmement vif. Et donc d'après ce que j'ai lu de vous, il semble que c'est par l'approche personnelle. Donc vous êtes parti des textes hiéroglyphiques que vous avez transcrits, que vous avez traduits pour arriver donc à formuler la thèse qui est la vôtre, c'est que c'est après que le changement s'est fait.
Ça c'est vrai, parce que nous avons deux écoles, un peu comme ça, de manière schématique. Il y a ceux qui plaident pour la préexistence du mal, le mal est en Dieu lui-même, ou la déesse, parce que là, parfois c'est Dieu, parfois c'est une déesse. Donc le mal est dans le divin. Quand il a créé, le mal est venu après coup. Par exemple, vous voyez, alors là, on prend les personnages comme Seth, on prend Apophis comme des hypostases, comme ceux par lequel le mal est advenu. Alors, il y a une autre école qui dit, oui, c'est vrai, le mal est là, mais le mal est postérieur. Et ça, c'est la tête d'affiche, c'est Yann Asman. Je me suis inscrit dans cette lignée. Et puis, je repris les évidences, les textes, de ceux qui plaidaient pour la préexistence. Par exemple, un collègue, un professeur, Paul Franzen, qui, grâce à lui, je suis arrivé à comprendre ou à étudier une divinité Yahou, et lié à la question du vent d'ouest. En relisant les évidences, les textes égyptiens, surtout contenus dans les textes des sarcophages, je ne suis pas arrivé à la même conclusion. En fait, tout est question d'interprétation. On reprend les mêmes textes, mais parfois, les conclusions, un peu en m'inspirant du syllogisme, comment dire ça, de la logique aristotélicienne, parfois les conclusions dépassent les prémices. Mais je voulais simplement tirer des conclusions à partir de ma lecture. Évidemment, il y a des confrères qui ne sont pas d'accord avec ma lecture. Je dis que moi-même, étant prêtre et religieux, je voulais déculpabiliser Dieu, comment dire ça, du mal. Donc j'ai lu les textes dans une orientation, on dirait le préjugé, de manière que Dieu ne serait pas responsable, mais ce sont ses fils qui viennent après. Mais lui-même, il nous donne même, il y a un autre texte là de Méricaré, on dit Dieu a créé ce que nous, égyptologues, nous traduisons par la magie, je n'aime pas beaucoup ces mots-là, et Kaou, pour faire face aux événements de la vie. Il a créé la royauté pour pouvoir combattre le mal. Donc Dieu combat le mal avec nous. C'est ça un peu mon article de foi. Et les Égyptiens croyaient tellement à l'association, c'est-à-dire à la grâce, si on peut dire comme ça, à la force, à la sollicitude de Dieu, qu'eux ne pouvaient pas croire que le mal était préexistant. Ils avaient un optimisme. Et ça rejoint aussi les Africains d'aujourd'hui. C'est ça un peu ma lecture.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de toute crainte.
The resolutions we have made here are a symbol of our determination to become united and to remain united in an African community.
micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique.
Mémoire d'un continent. Elikia Mbokolo.
Nous sommes avec un égyptologue, le professeur Mpaye Kemboli, qui nous parle d'une question très importante et très compliquée, la question du mal. Alors, si nous prenons un peu la démarche, je dirais, des historiens, vous êtes attaché à un certain nombre de figures pour voir autour d'eux quelle est l'origine. Alors, en Afrique, beaucoup de gens connaissent, on pourrait prendre la figure d'Osiris. Comment il entre dans votre raisonnement ?
Eh bien, le problème d'Osiris entre quand j'ai appris, j'ai analysé un papyrus qu'on appelle Sot, papyrus Sot 825. Et là-dedans, on voit Osiris qui a été, comme on sait, il a été tué, et lui, il est souvent présenté comme Dieu bon. Et son frère ou son oncle, Seth, est Dieu mauvais. Bon, il a d'autres personnages. Il a par exemple Geb, parce que après il y a Atum, et puis après Atum, il y a, comme a dit, il y a Chou et Tefnout, et d'autres enfants qui vont venir. Notamment Geb, on dit il est lié donc comme une divinité de la terre. Et quand moi j'analyse ces textes, c'est-à-dire la progéniture, les enfants des dieux, je vois que chacun, à sa manière, a commis quelque chose qui a déplu au Créateur. Soit une sorte de rébellion, ou quelque chose comme un viol, par exemple, on parle de Geb, ou alors, par exemple, dans cette affaire d'Osiris. Donc, en fait, c'est, moi je comprends le combat d'Osiris avec Seth, c'est pour la royauté. Donc, la royauté ici, alors, c'est un peu, Seth devient comme quelque chose qui met en branle le processus de rénovation d'une société. C'est-à-dire, les Égyptiens ont adopté, à mon avis, le principe de déstabilisation à l'interne, c'est-à-dire un certain désordre contrôlé pour que la société ne reste pas statu quo. Donc, ça permet tout le temps de refaire, de revoir donc les options fondamentales d'une société à un moment donné. Donc, il y a Osiris, Dieu bon, et puis il y a Seth, mais Seth, dans une autre constellation, est présenté comme Dieu bon. Vous voyez, donc, dans le contexte de la dispute de légitimité du pouvoir, il est mauvais. Mais dans d'autres contextes, il est bon. Parce qu'il y a même des pharaons qui ont porté le nom de Dieu, de Seth, comme c'était premier, donc le papa de Ramsès II.
Et alors, le personnage de Apophis, auquel vous attachez aussi beaucoup d'importance, situez-le nous, expliquez un peu comment il entre dans votre réflexion.
Apophis ou Apopi, bien, il est représenté comme une tortue, mais surtout comme un serpent géant. Et lui, c'est un peu l'incarnation. Souvent, quand nous lisons les textes de l'Égypte ancienne, la figure du mal, c'est Seth et Apophis. Alors, si Apophis, qui tout le temps doit livrer le combat contre, en tout cas à partir des textes, il apparaît dans un tombeau en Égypte ancienne, mais c'est surtout dans les livres de mort, les textes de sarcophage, lui doit livrer le combat contre la navire, le bateau solaire. Il voudrait que les eaux sur lesquelles la nacelle solaire navigue puissent sécher pour que le monde s'arrête. Alors, il y a la barque des millions, là-dedans, devant, il y a Maat. Et Seth, justement, lui, il sera là, à la proue de la barque, pour combattre Apophis. Apophis est toujours là. Jamais vainqueur, mais jamais vaincu. Donc, c'est là, pour moi, c'est un peu cette histoire continue du mal. Le mal, d'après mon interprétation des données égyptiennes, ne va jamais être vainqueur. Mais le mal sera toujours parce que, à un moment donné, dans les combats, Dieu va être blessé, Dieu va être secouru par les autres. Donc, Dieu est touché donc, par le mal. Mais il ne va pas toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu, comme le soleil, il meurt chaque jour, il se réveille chaque jour le matin, aussi fort qu'avant. Donc, Apophis va surtout être analysé, d'après les dernières évidences dans le temple de Esna, où il est représenté comme la salive de Dieu. Et là, dedans, le texte dit, Dieu l'a craché, et puis, il est devenu mauvais. Et là encore, on voit, il devient. Donc, ce n'est pas qu'il est né mauvais, il devient. Et ça, il faut prendre ça au sérieux. Il devient. Et là, on voit, il sera même, à un moment donné, comme le propre de Dieu. Mais pas le propre de Dieu, mais je dirais, une de, comment dire, embodiment, une des incarnations aussi, dans ce sens-là.
Dans cette approche, comment dire, il y a le rôle très important de l'Égypte. Est-ce que vous avez l'impression que ces réflexions, vous parlez de du livre Black Athéna, Athéna Noire, qui essayait de montrer justement la circulation de ces idées, vous avez l'impression que ces idées ont pu influencer, comment dire, ce qu'on appelle le Moyen-Orient et au-delà, avoir des influences dans les philosophies et les cosmogonies africaines telles que nous les connaissons.
Il y a quelque chose pour moi que je trouve intéressant, c'est cet optimisme fondamental. Par contre, par exemple, dans la vallée de la Mésopotamie, donc nous sommes ici avec Euphrate et Tigre, et les auteurs sont partis lire là-bas, ou bien ils ont trouvé une typologie, c'est-à-dire la création, c'est un combat entre le mal et le bien. On le trouve même plus tard, en Grèce ancienne, si nous prenons Homère et Hésiode, les chaos et le cosmos. Si le cosmos, ce qui a donné les mots par exemple cosmétiques, c'est beauté, les chaos, c'est le désordre. Mais on va voir même avec Ovide, Ovide qu'elle va parler de métamorphose, c'est un peu cette idée que la création, c'est une victoire sur les forces du mal. Mais les chaos, c'est un réceptacle. Et j'ai apporté notre lecture au terme chaos, même à partir de l'Égypte ancienne, où on voit les chaos, c'est ouverture. C'est ouverture, une fente originale. Tout est possible, un peu comme ailleurs, on dirait la péronne, c'est l'indéterminé. Oui, c'est l'indéterminé. Donc, la création, ce n'est pas toujours combat entre le mal et le bien, parce que, en fait, ce que j'ai compris de l'Égypte, au début, dit le texte, Dieu était tout seul. Il n'a pas une contrepartie, il n'a pas un contrepart, donc il n'a pas un autre, un second. Le mal vient après, et parce que le texte parle de la solitude de Dieu, il est tout seul. Et alors, il déclenche le processus à partir de lui-même. Les textes disent, il était un et puis il devient trois. Vous voyez. Donc, il a probablement une lecture pareille de ce combat. Par exemple, les psaumes apparaissent dans la Bible, mais là aussi d'autres typologies où la création n'est pas un combat, c'est le désir de Dieu qui a le désir de créer, donc d'orner son monde. Un peu, les gens diraient, il s'est senti tout seul, il dit bien, j'ai besoin d'une compagnie. Il a aussi cette lecture. Même dans la Bible, ce n'est pas simplement combat entre le mal et le bien, ou ailleurs, on trouve par exemple Astarté, le combat entre l'ordre et le zoo, parce que on va aussi interpréter le zoo du début comme c'est les lieux des refuges du mal. Mais l'eau, on va voir l'Égypte ancienne, par exemple, avec les textes des sarcophages 11-30 qui dit « Au commencement, Dieu a créé quatre bonnes actions, notamment le zoo du Nil, pour que et les puissants et les faibles puissent s'en abreuver. »
Professeur, je voudrais terminer sur une chose. On voit que ces connaissances sur lesquelles vous travaillez, très probablement informent et enrichissent un de vos enseignements sur le dialogue interreligieux.
Oui, ça c'est vrai. Parce que j'essaie de comprendre comment aujourd'hui, dans nos ministères, ici, comme on dit, on parle tellement du mal et ça devient comme source de terrorisme. On terrorise le gens alors qu'ils devraient plus parler de Dieu. Et moi je crois, comme croyant, si on est avec Dieu, on reçoit l'Eucharistie chaque jour ou bien on fréquente les sacrements, on ne peut pas avoir peur. Dieu nous a créés avec assez d'énergie, assez de sources pour combattre le mal. Et je crois que notre problème avec Jésus-Christ ou d'autres réformateurs musulmans, d'autres religions, c'est toujours comment alléger la souffrance dans le monde et vivre avec l'optimisme et pour pouvoir peut-être un jour espérer rencontrer le Seigneur s'il nous appelle.
Merci beaucoup à vous, professeur Mpaï Kemboli. Je rappelle que votre livre, c'est La question du mal dans l'ancienne Égypte, livre dont les références en anglais seront données sur le site de l'émission Mémoire d'un continent. Cette émission est réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.